Rama et Sita. La réunion extraordinaire du comité consultatif de l'espace fut brève et houleuse. En ce siècle, qui était tout de même le 22e, le moyen d'écarter les savants âgés et conservateurs des positions clés administratives n'avait pas encore été découvert. En fait, on doutait que le problème pût être un jour résolu. Pis encore, le président en exercice du conseil était le professeur honoraire Olaf Davidson, le très distingué astrophysicien. Le professeur Davidson ne s'intéressait guère aux objets plus petits que les galaxies et n'avait jamais fait mystère de ses préférences. Et bien qu'il dût admettre que 90% de sa science reposait sur des observations effectuées par des instruments exclusivement spatiaux, il n'avait pas lieu de s'en réjouir. Par trois fois, au moins, au cours d'une carrière bien menée, des satellites spécialement lancés pour démontrer une de ses théories favorites avaient précisément prouvé le contraire. La question se posait sans détour au Conseil. Il n'était pas douteux que Rama fût un objet hors du commun, certes, mais était-il si important? Dans quelques mois, il aurait disparu pour toujours, et donc le délai pour agir était bref. L'occasion manquée maintenant ne se présenterait plus jamais. Pour une somme plutôt terrifiante, une sonde spatiale prête à être lancée depuis Mars vers les régions transneptuniennes pouvait être modifiée et envoyée sur une trajectoire tendue au devant de Rama. Le rendez-vous était inaccessible. À une vitesse jamais encore enregistrée, deux éclairs, deux objets se croiseraient à 200 000 km à l'heure. Rama ne serait observé avec acuité que pendant quelques minutes et, de près, moins d'une seconde. Mais, avec l'appareillage adéquat, cette durée suffirait à régler nombre de questions. Bien que le professeur Davidson considérât d'un œil torve la sonde transneptunienne, le projet était déjà approuvé et il ne vit pas l'intérêt de s'enferrer dans un mauvais cas. Il parla avec éloquence du faste inutile de la chasse aux astéroïdes, du besoin urgent sur la Lune, d'un nouvel interféromètre à haute résolution depuis peu, de la création de l'univers par un Big Bang. C'était une grave erreur tactique. Les trois plus ardents partisans de la théorie modifiée de l'univers quasi statique étaient également membres du Conseil. Bien sûr, ils admettaient, sans le dire, avec le professeur Davidson, que la chasse aux astéroïdes était une dépense inutile. Mais quand même. Une seule voix suffit à départager le conseil et à lui donner tort. Trois mois plus tard, la sonde spatiale rebaptisée Sita était lancée depuis Phobos, la plus intérieure des deux lunes de Mars. Le vol dura 5 semaines et l'appareil ne fut réglé à sa pleine puissance que 5 minutes avant l'interception. Simultanément, un essaim de caméras fut largué afin que Rama, au passage, pût être photographié sur toutes ses faces. Les premières images prises, à 10 000 km de distance, stoppèrent net toutes les entreprises humaines. Ce qui apparut sur 1 milliard d'écrans de télévision, ce fut un minuscule cylindre dépourvu de traits apparents et qui grandissait rapidement de seconde en seconde. Lorsque sa taille eut doublé, personne ne pouvait plus prétendre que Rama était un objet naturel. Son corps était un cylindre d'une perfection géométrique telle qu'il aurait pu être façonné sur un tour, mais un tour dont les pointes auraient été écartées d'une 50aine de kilomètres. Les deux extrémités étaient tout à fait planes, à l'exception de formes d'une moindre importance au centre de l'une d'elles. Leur diamètre était de 20 kilomètres. À distance et en l'absence de toute échelle de comparaison, Rama ressemblait assez drôlement à n'importe quel chauffe-eau électrique. Rama grandit jusqu'à remplir l'écran. Sa surface était d'un gris triste, terne, d'une absence de couleur semblable à celle de la Lune et dépourvue de marques extérieures, sauf en un point. À mi-chemin de la longueur du cylindre, se trouvait une tache, une altération d'un kilomètre de large, comme si quelque chose, à une époque reculée, était venu s'y écraser. À ce qu'il paraissait, l'impact n'avait pas provoqué de dommages aux parois tournoyantes de Rama, mais c'était cette marque qui, cause de la faible variation de brillance, avait mis Stenton sur la piste de cette découverte. Les images transmises par les autres caméras n'apportèrent rien de nouveau. Toutefois, les trajectoires que décrivirent leurs supports dans le champ gravitationnel de Rama donnèrent une information essentielle. La masse du cylindre. Il était bien trop léger pour être un corps compact, et personne ne fut surpris d'apprendre que Rama était nécessairement creux. La rencontre longtemps espérée, longtemps redoutée, se produisait enfin. L'humanité allait accueillir son premier visiteur venu des étoiles.